Le journal présenté par Ezequiel Fernandez.
Bonsoir à tous. La réforme des retraites sur la table d'opération, le docteur Delevoye prépare les instruments, le gouvernement tranchera. Une réforme qui se veut plus équitable pour les femmes, nous dira Lisa Guyenne. La température monte dans les eaux du Golfe. L'Iran affirme détenir un pétrolier étranger. Le climat diplomatique se détériore de plus en plus entre Téhéran et Washington. Boris Johnson, pas encore Premier ministre, reçoit un avertissement sans frais des députés britanniques. Le Brexit ne se fera pas sans l'accord du Parlement. Correspondance signée Élodie Goulesque. Et puis les trois quarts des départements français ont soif et les prévisions ne sont pas optimistes. Nous entendrons une spécialiste des nappes phréatiques en fin de journal. La réforme des retraites sur les rails, si j'ose dire. Le haut commissaire Jean-Paul Delevoye a dévoilé à la mi-journée ses préconisations au gouvernement. En fait, une sorte de dynamitage du système actuel pour plus d'équité, assure-t-il. Les deux piliers en sont le système à points universel dès 2025 qui remplacera les 42 régimes actuels et l'âge légal de départ à la retraite qui reste à 62 ans, certes, mais ce n'est qu'à 64 ans que le taux plein sera appliqué. Ceux qui décideront de partir à 62 ans subiront une décote de 5%. La première génération concernée est celle née en 1963, si la réforme est adoptée telle qu'elle, bien sûr. Autre point, relevé tout à l'heure par Jean-Paul Delevoye, Lisa Guyenne, cette réforme se veut plus juste pour les femmes.
Aujourd'hui, les femmes ont une pension en moyenne 42% plus faible que celle des hommes. Mais le nouveau système devrait être plus solidaire, explique Jean-Paul Delevoye.
Pour chaque période d'interruption d'activité, chômage, maternité, invalidité, maladie, ça donnera des droits à des points de solidarité qui auront les mêmes valeurs que les points attribués par le travail. Et ils seront systématiquement valorisés au moment de la retraite. Donc aujourd'hui, nous aurons pour la maternité, pour la maladie, à l'euro près le salaire de l'année précédente. Pour le chômage, sur les allocations perçues. Donc les choses sont claires, les contrats sont clairs.
Par ailleurs, en cas de décès d'un conjoint, le système dit de réversion devrait maintenant permettre au conjoint restant de toucher 70% du total perçu par le couple, car ce sont généralement les femmes qui perdent leur mari et leur pension est bien souvent moins élevée. Alors le principe de tout cela est louable, certes, mais pour Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, il s'agirait avant tout de s'attaquer à la source du problème.
Monsieur Delevoye dit on va proposer un système universel qui va réduire l'écart de pension entre les femmes et les hommes. Je lui ai dit, réglez d'abord les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, et vous verrez qu'avec notre système, naturellement, les écarts de pension entre les femmes et les hommes seront réduits.
Les négociations sur la future réforme ne sont en tout cas pas terminées. Syndicats et patronats seront de nouveau consultés la semaine prochaine.
Oui, un processus de concertation qui est loin, effectivement, d'être achevé. Y aura-t-il un jour un accord mondial sur la taxation des géants du numérique? Les ministres des Finances du G7 ont franchi en tout cas un premier pas vers un accord mondial lors de leur réunion à Chantilly. Le français Bruno Le Maire se félicite de cet accord sur le principe, accord qu'il faut tenter maintenant d'imposer à échelle mondiale. Comme le dit le secrétaire d'État américain au Trésor, Steven Mnuchin, il reste encore du travail à faire. Un drone iranien a été abattu cet après-midi au-dessus du détroit d'Ormuz par un navire de guerre américain. Le drone s'approchait trop près du navire, selon Donald Trump. Nouvel épisode, bien sûr, de la guerre des nerfs que se livrent les États-Unis et l'Iran dans cette partie du monde. L'Iran, qui affirme pour sa part avoir bloqué un pétrolier étranger, a raisonné dans ses eaux territoriales, sans préciser d'ailleurs le nom du tanker et son pavillon. Un navire soupçonné par Téhéran de se livrer à de la contrebande de carburant. Bref, Christian Chesneau, la tension continue à monter.
En plein bras de fer entre Téhéran et Washington sur le dossier nucléaire, la guerre des tankers continue dans le détroit d'Ormuz. Dans le dernier épisode, c'est l'Iran qui est passé à l'offensive. Les gardiens de la révolution ont arraisonné un pétrolier d'une capacité de 2 millions de barils et interpellé ses 12 membres d'équipage. Le navire, dont le nom et le pavillon n'ont pas été divulgués, se livrait à de la contrebande de carburant, affirment les autorités iraniennes. Selon des spécialistes de la navigation commerciale, il pourrait s'agir du Riyah battant en pavillon panaméen qui avait l'habitude d'effectuer des allers-retours à travers le golfe Persique pour ravitailler d'autres navires. Depuis l'arraisonnement, le 4 juillet dernier, du Grasse 1 en Méditerranée, la tension est montée d'un cran. Ce tanker qui transportait du pétrole iranien à destination de la Syrie a été arraisonné par les autorités de Gibraltar, épaulé par des commandos marines britanniques. Depuis cette interception, qualifiée d'acte de piraterie par Téhéran, les Iraniens ne décollèrent pas. Ils ont promis de répondre au moment et à l'endroit opportun, comme l'a dit le guide de la révolution Ali Khamenei. L'incident d'aujourd'hui montre que l'Iran entend bien poursuivre sa stratégie de harcèlement au moment où les grandes puissances renforcent leur présence militaire dans le golfe Persique.
Trois hommes condamnés à à mort par la justice marocaine. Ils ont été jugés pour l'assassinat de deux jeunes touristes scandinaves dans le Haut Atlas. C'était fin 2018. Au nom de l'État islamique, deux jeunes femmes, une Danoise de 24 ans et une Norvégienne de 28 ans, elles avaient été décapitées. Scène filmée par l'un des trois hommes condamnés à mort. Deux morts ce matin dans un attentat suicide perpétré dans le Sinaï, en Égypte. Attentat à la bombe visant des membres des forces de sécurité, revendiqué par l'État islamique. Depuis un an et demi, l'armée égyptienne a lancé une vaste opération dans le nord Sinaï, visant précisément à démanteler la branche islamiste locale. Boris Johnson, le probable prochain Premier ministre britannique, est prévenu. Les députés ont adopté aujourd'hui un amendement qui empêcherait le locataire du 10 Downing Street de suspendre le Parlement pour imposer un Brexit sans accord avec l'Union européenne. Boris Johnson n'arrête pas de répéter, vous le savez, que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne le 31 octobre. Les députés britanniques font passer le message, donc, selon lequel il n'est pas question de court-circuiter le Parlement. Nous retrouvons à Londres Élodie Goulesque.
Il n'a pas encore été nommé et pourtant le prochain Premier ministre se trouve déjà en difficulté face au Parlement. Boris Johnson, donné favori pour succéder à Theresa May, martèle depuis des semaines que le Brexit aura lieu, quoi qu'il arrive, au 31 octobre, quitte à risquer un no deal. Seulement les députés en ont décidé autrement. Avec une majorité de 41 voix, les représentants de la Chambre des communes ont donc décidé de bloquer un Brexit dur qui leur serait imposé. Comprenez, ils ont voté contre le fait que le prochain Premier ministre leur enlève leur droit de vote. Depuis le début, quelle que soit l'issue du Brexit, celle-ci doit être validée par les 650 députés. Depuis le début également, un grand nombre d'entre eux s'opposent à un no deal. Boris Johnson lui semble être convaincu de pouvoir faire passer le Brexit, quitte à suspendre le Parlement et outrepasser un vote. Mais les belles paroles de l'ancien maire de Londres viennent se confronter à la réalité. Parmi ceux qui ont voté contre une suspension, il y a 17 conservateurs. Au sein du cabinet, 4 ministres se sont abstenus. En règle générale, le Parlement est suspendu une fois par an au printemps. C'est le seul moment de l'année où la reine y pénètre pour faire un discours et ouvrir une nouvelle session parlementaire. Si Boris Johnson ne règle pas le Brexit comme il l'a promis au 31 octobre, il serait certainement contraint de provoquer de nouvelles élections générales et donc risquer de perdre son poste.
Élodie Goulesque à Londres pour France Culture. Carola Racket, entendue pendant 2 heures par des juges d'Agrigente et en Sicile, la capitaine du navire Sea-Watch 3 poursuivrait en Italie pour avoir, le 29 juin dernier, accosté et débarqué sur l'île de Lampedusa 40 migrants secourus en mer. Elle appelle l'Union européenne à se mobiliser pour mieux organiser l'accueil et la répartition des migrants. Quelques claques données aux climato-sceptiques selon l'agence américaine NOAA. Dans son rapport publié aujourd'hui, le mois de juin dernier a été le plus chaud enregistré en 140 années de relevés météorologiques dans le monde. L'Europe, l'Asie, l'Afrique ainsi que la région du Golfe du Mexique ont connu leur mois de juin le plus caniculaire dans les annales météorologiques. Le sud de la France n'est pas épargné puisqu'il a enregistré une température record le mois dernier proche de 46 degrés. L'État d'Israël vient aussi d'enregistrer son record de chaleur depuis sa création en 1948, près de 50 degrés aux abords de la mer Morte. Ce qui nous amène aux 67 départements français concernés justement par des restrictions d'eau. 22 départements sont toujours en situation de crise et la situation ne devrait pas s'améliorer puisqu'on attend un nouvel épisode caniculaire la semaine prochaine. Il n'y a pas encore urgence pour les nappes phréatiques, mais la situation est inquiétante. Explication sur ce point de Violaine Beau, hydrogéologue au BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière.
Sur les nappes phréatiques, nous ne sommes pas dans une situation très inquiétante, à l'exception des régions Bourgogne-Franche-Comté et sur le sud de la Loire, au sud de la région Centre-Val de Loire. Ce qui est plus inquiétant, ce sont les cours d'eau et la sécheresse des sols, car les nappes sont en relation directe avec les cours d'eau. Et donc s'il ne pleut pas, il y a beaucoup de nos cours d'eau qui dépendent dans ces cas-là exclusivement de ce que leur apportent les nappes. Et donc si les nappes sont basses, eh ben, il n'y aura pas d'eau, pas suffisamment d'eau dans les cours d'eau. Ensuite, la sécheresse des sols engendre une demande accrue en eau de la part de nos agriculteurs et donc ils ont besoin de pomper dans les nappes et donc ça accentue également la baisse des niveaux.
Donc ce qu'on vit là, sécheresse, 67 départements concernés par des restrictions d'eau, ça va s'aggraver. Qu'est-ce qui pourrait se passer ?
Météo France n'annonce pas de pluie dans les semaines à venir sur la plupart de nos régions. Donc comme les cours d'eau vont demander plus d'eau aux nappes et les usagers de l'eau également vont demander plus d'eau, donc on va avoir des niveaux qui risquent de baisser plus vite.
Violaine Beau, hydrogéologue, interrogée par Véronique Robérotte. Demain, les nuages joueront à cache-cache avec le soleil dans le nord, un peu de pluie en Bretagne, le soleil s'imposera dans la moitié sud avec des maximales comprises entre 25 et 34 degrés. C'est la fin de cette édition. Très bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture.